Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Tu appelles encore et tu veux sauver et tu nous rappelles, Seigneur, les principes de ta parole et tu nous dis que si vous obéissez à ma parole, vous vivrez par elle. Nous voulons la connaître, Seigneur, mieux encore. Nous voulons la sonder plus encore. Nous voulons l'en faire partie, que cette parole fasse partie de nous-mêmes, Seigneur, afin de te ressembler de plus en plus et de marcher et de vivre dans la victoire avec Jésus. Parle-nous encore ce matin, je t'en prie, Seigneur. Parle-nous par ta parole et fais-nous comprendre les choses de la vie. Amen. Dimanche dernier, nous n'avons pas terminé ce qui avait été déjà dit. Le message qui avait été préparé pour dimanche dernier n'avait pas été conclu et j'aimerais pouvoir le terminer ce dimanche et apporter encore d'autres éléments desquels nous avons besoin aujourd'hui. Et pour cela, je relirai ce passage qui est le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Pour que tes jours se prolongent, tu dois honorer ton père et ta mère. Voilà ce que ça veut dire. Et dimanche dernier, nous avons vu en long et en large les problèmes qui se posent à notre monde aujourd'hui avec le déséquilibre qu'il y a de toutes parts entre les relations enfants-parents, parents-enfants. Et combien de fois l'enfant ignore qui est ses parents ou il n'a pas été éduqué. Il est grandi comme une herbe sur le bord du chemin. J'allais dire une mauvaise herbe, bien trop souvent. Et quand il est dit « Honore ton père et ta mère », ceci s'adresse d'abord au père et à la mère. Et combien de fois le papa et la maman n'ont pas rempli leurs obligations envers leur enfant. Pas un enfant, pas un individu, pas une personne qui se trouve dans cette salle, qui écoute où que ce soit, n'a demandé de venir au monde. Pas vrai? Nous y sommes parce que nous y sommes. D'autres personnes avant nous ont désiré nous avoir. Et nous sommes dans ce monde parce que nos parents ont désiré nous avoir. Ils se sont mariés et ils ne voulaient pas être simplement comme cela dans la vie, et ils ont désiré d'avoir des enfants. Nous voyons combien de femmes et d'hommes, de jeunes ménages qui se marient lorsqu'ils n'ont pas des enfants immédiatement, et ceci, c'est terrible ici au Congo. Ça devient un drame. La famille fait pression de toutes parts. Ils harcèlent la pauvre jeune mariée quand c'est que tu vas mettre au monde. Il arrive qu'après les premiers 9 mois du mariage, on se fait déjà du souci. J'appelle cela de la sottise. Vous mettez une pression intolérable sur la pauvre jeune fille et il arrive qu'elle se détracte psychologiquement et qu'elle ne peut pas mettre au monde, non pas parce que ses organes ne sont pas bons et qu'elle ait des défauts, mais ça se passe là dans la tête. Souvenez-vous que la machine humaine, machine entre guillemets, parce que c'est pas une machine, est quelque chose de très complexe. Et l'esprit, l'âme, l'intelligence est en rapport avec le fonctionnement physique. Et vous pouvez très bien bloquer une jeune fille qui n'aura pas d'enfant à cause de vos harcèlements. Il n'y a pas bien longtemps, je disais à un jeune homme qui est marié depuis plus d'une année, je crois, et dont l'épouse se fait un souci monstre, je lui ai dit, écoutez, vous devez défendre votre jeune épouse. Vous devez la défendre. Et si quelqu'un lui dit quoi que ce soit, vous lui dites, ça vous regarde pas, c'est pas votre affaire. Et vous dites à votre femme, je t'aime, que tu aies des enfants, oui ou non, je t'aime, la même chose. Frères et sœurs, il n'y a pas moins mariage quand il n'y a pas d'enfants que quand il y a des enfants. Quand un homme a marié une femme, il l'a mariée pour la vie, enfant ou pas enfant, et il est lié devant Dieu avec cette femme. Et si véritablement on ne veut pas avoir des enfants, alors adopter un enfant, il y a tant d'enfants abandonnés dans le monde. Mais il n'y a pas moins mariage quand il n'y a pas d'enfants. Il y a cellule familiale quand il y a papa et maman, maman et papa. Et quand il y a des enfants, eh bien c'est une responsabilité qui est ajoutée à ce couple. Une responsabilité. Et plus vous avez des enfants, et plus vous avez des responsabilités, et vous aurez des comptes à rendre devant Dieu pour les enfants que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne parce que vous les avez voulu. Parce que là, ce n'est pas que la volonté de Dieu, mais c'est aussi votre volonté à vous. Dieu vous a donné la charge de mettre ses enfants au monde. Dieu vous a donné la charge. Ceux qui sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc la volonté de l'homme intervient. Mais de la volonté de Dieu, la nouvelle naissance. Mais quant à la naissance physique, c'est la volonté de l'homme. Et même dans la nouvelle naissance, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu doivent travailler ensemble. C'est un principe, frères et sœurs. Nous sommes des êtres autonomes. Nous ne sommes pas réglés par des hormones comme les animaux qui se déclenchent tout d'un coup au milieu de l'année à une certaine période et qui se cherchent l'un l'autre pour procréer. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas fait de nous des animaux. Alors ne nous comportons pas comme des animaux. Soyons des hommes et des femmes responsables. Et si nous voulons des enfants, sachons que ces enfants sont là à notre charge jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Car Dieu nous demandera des comptes. Et Dieu recommande, honore ton père et ta mère, afin que les jours, tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, Dieu, te donne. Nous avons vu comment les hommes cherchent à se soustraire à leurs responsabilités. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent à se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs femmes. On se marie, on accepte une responsabilité. On accepte une charge. Si tu ne veux pas prendre la responsabilité, ne te marie pas. Mais sache que dans tous les jours de ta vie, tu auras une responsabilité à prendre. Tu ne peux pas te dégager. Tu ne peux pas tourner le dos vis-à-vis de la responsabilité. Pourquoi? Eh bien, parce que tu appartiens à un ensemble qui est interdépendant. Personne ne fait ce qu'il veut. Nous avons vu comment, dimanche dernier, en détail, comment les hommes cherchent à se soustraire de leurs responsabilités. Et comment les enfants, bien souvent, sont des victimes de la vie déréglée des parents. Et nous avons souligné combien tout ensemble organisé, toute civilisation comme telle, qui progresse et qui travaille à son bien-être, et dont le bien-être réussit, dépend de la cellule familiale. Et toute civilisation qui tombe en décrépitude, elle commence à se détruire par la famille. Et c'est ce que nous voyons mondialement parlant aujourd'hui. La décrépitude de la famille par l'effritement, la décrépitude de la civilisation par l'effritement de la famille, qui n'est plus respectée, dont les principes ne sont plus respectés. Des jeunes gens et des jeunes filles qui vivent ensemble sans être mariés, voulant la jouissance de la vie ensemble, sans en accepter les responsabilités, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, des maladies sexuellement transmissibles et des enfants laissés pour compte. Là, nous avons la destruction de la civilisation. C'est pour ça que dans nos sociétés dites civilisées, nous avons de plus en plus de drogués, d'ivrognes, de jeunes gens désabusés, qui ne pensent qu'à tuer, à détruire, qui n'ont pas le sens de la famille, de l'unité, qui n'ont pas le sens de l'amour même, privés d'amour qu'ils étaient pendant leur enfance, avec mille problèmes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes, dans l'âge de 15, 16, 17 ans, se suicident. Une tragédie, le nombre de suicides qu'il y a parmi les jeunes. Ils ne trouvent aucun goût à la vie. Ils ne trouvent aucune signification à la vie. Si bien qu'ils trouvent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour eux, c'est une charge insupportable. Ils ne savent pas définir leur mal. Mais le mal vient au niveau de la famille. Nous ne pourrons jamais assez dire cela, frères et sœurs. Tant de déréglés, de brigands, de sauvages dans nos rues et dans nos villes, quoique ayant des diplômes dans la poche, de destructeurs, d'insoumis, à cause de ce qu'ils n'ont jamais appris à la maison, les principes de base de toute société équilibrée. La famille est une petite société. Et si cette petite société ne marche pas, la grande société dans son ensemble ne marchera pas. Impossible. Il faut tout revenir au départ. Ce commandement subsiste. Et au lieu de le rejeter, cherchons à le comprendre. Cherchons à le comprendre. Dieu, dans sa grande sagesse, sait très bien pourquoi il a dit quelque chose. Et quelles en sont les raisons? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ne soyons pas des gens irréfléchis qui rejetons automatiquement le commandement. Tout ce que Dieu donne et dit est profitable. Ce que Dieu a dit n'est jamais pour détruire, pour ennuyer les hommes. Il y a un bénéfice dans l'obéissance au commandement de Dieu. Il y a là une volonté de Dieu pour notre bien, pour l'équilibre de notre société, et qui est profitable pour chacun d'entre nous si seulement nous voulons nous y soumettre. Sachant que les 10 commandements sont adressés en premier aux adultes. Lorsqu'on lit ce commandement, honore ton père et ta mère, on regarde l'enfant immédiatement. Mais ce commandement est d'abord donné aux adultes. Ce commandement est donné aux adultes membres de la communauté d'Israël à l'origine. Nous, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous nous réclamons de chrétiens, c'est-à-dire que nous suivons Christ. 90% des Congolais se disent être chrétiens. Donc, je crois que ce commandement s'adresse à nous. Les plus jeunes sont concernés, évidemment, mais ne sont pas directement responsables. C'est adressé aux plus jeunes, mais c'est d'abord adressé aux parents, car les parents sont les premiers responsables. Les parents sont les premiers. Et c'est à eux d'enseigner ces vérités à leurs enfants. Vous n'enseignez pas à vos enfants. Comment voulez-vous que vos enfants appliquent ce que vous n'avez pas enseigné? C'est impossible. Vous n'avez pas enseigné ces principes à vos enfants. Et vous vous attendez que quand ils seront vieux, ils vous respectent, ils prennent soin de vous, etc., etc. Et alors, parce que vous voulez qu'ils vous respectent, maintenant vous les obligez. Alors que vous n'avez pas rempli vos devoirs vis-à-vis de vos enfants quand ils étaient petits. Vous avez été le contraire de la morale. Vous avez été le contraire de ce que vous deviez être. Et maintenant, vous exigez à vos enfants des choses que vous n'avez pas faites vous-même. Illogisme. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, il est dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà, d'abord à toi, papa, et à toi, maman, ces commandements seront dans ton cœur. C'est-à-dire que tu les prendras, tu les accepteras, tu les appliqueras pour toi-même. Et ensuite, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants. et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Tu en parleras quand tu seras à la plantation avec tes enfants. Tu en parleras lorsque vous marcherez ensemble sur la route. Quelles sont vos conversations avec vos enfants? Combien de parents vivent à l'écart de leurs enfants? Ils poussent sans qu'ils les voient. Ceux qui ont de l'argent les envoient à l'extérieur quelque part. Ils les voient que pendant les grandes vacances, et encore pendant les grandes vacances, ils les voient à peine, rien que pour dire « qu'est-ce que tu as grandi ?» La famille n'existe pas là. Soyons logiques. Soyons logiques. Et du reste, qu'est-ce que le papa enseigne à son fils? Et qu'est-ce que la maman enseigne à sa fille? Qu'est-ce que le papa enseigne à sa fille? Et qu'est-ce que la maman enseigne à son fils? L'enseignement commence à la maison. Vous voyez certaines fois des enfants qui n'ont pas fait de très hautes études, mais je vous assure qu'ils savent mieux se tenir que certains qui ont sont pleins de diplômes. Pourquoi? Parce qu'à la maison, papa et maman les ont éduqués. Et l'éducation, c'est une affaire de chaque instant. L'éducation, c'est une affaire de chaque instant. C'est d'abord un exemple. Un. C'est d'abord de la crédibilité de la part des parents vis-à-vis des enfants. Deux. C'est la droiture et ce n'est pas le mensonge. Trois, c'est la discipline à la maison, c'est-à-dire le respect du temps, le respect des heures, le respect des tâches à accomplir. L'enseignement donné à l'enfant, cet enfant peut-être n'aura pas de grand diplôme parce que papa et maman ne sont pas riches, mais je vous assure qu'il va se faire respecter dans la société parce qu'il sait se tenir dans la société. À plus forte raison, si c'est un enfant de Dieu, il aura quelque chose de spécial. Nous voulons une nouvelle génération. Nous voulons un peuple meilleur. Eh bien, voilà où ça commence. Ça ne va pas commencer en 24 heures avec des décrets et avec de nouvelles lois. Et avec des nouveaux partis politiques. Non, mes frères, revenons aux principes bibliques, revenons à Dieu, revenons à la parole de Dieu. Oui, il est possible de tourner la situation. Oui, il est possible de changer la situation. C'est vrai, mais alors, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, passons par la repentance et décidons-nous à pagayer contre le courant. Ne nous laissons pas aller avec les idées préconçues et les façons de vivre du monde d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est dur, il faut pagayer contre le courant. Et surtout, ne vous arrêtez pas, autrement vous allez être emporté en arrière. La facilité. Voilà, les gens deviennent paresseux. On cherche la facilité. Eh bien non, ce n'est pas facile que de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Il faut des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes qui choisissent, des hommes et des femmes qui ne se laissent pas entraîner par le courant. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Est-ce que tu parles avec ton enfant, papa? Avec tes enfants, papa? Est-ce que tu parles avec tes enfants, maman? Pas seulement pour donner des ordres. Va me chercher ceci. Va me chercher cela. Va m'acheter du sel là-bas au coin. Va m'acheter du sucre là-bas au coin. Est-ce que tu contrôles tes enfants? À quelle heure est-ce que tu rentres aujourd'hui? Ah? Je vous assure que quand mes filles étaient ici et qu'elles grandissaient ici à Kinshasa, elles avaient leurs amis de l'école française. Et des fois, elles étaient invitées. Papa, est-ce que je peux y aller? Oui, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Ah, bon, ça va. Mais tu dois être de retour à telle heure. Et je vous assure qu'elles étaient de retour à telle heure. Parce qu'elles savaient que papa et maman avaient dit que ça devait être à telle heure. Même pas 5 minutes en retard ou 10 minutes en retard. S'il y a du retard, il faut l'expliquer. Discipline. Quand l'enfant grandit, il ne va pas vous cracher au visage parce que vous avez fait cela. Non, l'enfant va dire merci papa et maman parce que je vois que vous aviez raison. Et c'est ainsi que je vais faire pour mes enfants. Comment éduquer tes enfants? Leur parles-tu? Le dialogue, entre papa et maman et les enfants. Le dialogue autour de la parole de Dieu. Le dialogue sur les choses de Dieu. Tu parleras à tes enfants quand tu seras en voyage. Tu lui rappelleras d'où tu es venu. Sorti d'Égypte, esclave en Égypte, délivré par la puissance de Dieu. Délivré parce que Dieu a fait de vous son peuple. Il a fait de vous son peuple. Souvenez-vous, mes enfants, vous êtes du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne se conduit pas comme le peuple du monde. Le peuple de Dieu est différent. Acceptez d'être différent. Oui, d'accord. Et je vous assure, quand elles étaient à l'école française, on savait qu'elles étaient différentes. Quand je vois le témoignage de certains de ces professeurs lorsqu'elles ont quitté l'école après le baccalauréat, eh bien je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour le témoignage qu'elles ont gardé dans la classe d'anglais renforcée que l'une des filles suivait. Il fallait qu'elle débatte un sujet un jour, sujet libre. Et notre fille a choisi le sujet, le retour du roi. Et pendant une heure, elle a débattu le retour du roi dans sa classe d'anglais en anglais pour expliquer le retour du roi des rois qui vient de prendre ses enfants. Et tout le monde était là à écouter et le professeur, après l'heure, a dit « Mais ça serait pas si mal si on continue encore l'heure suivante. » Pourquoi cela ? Eh bien, parce que l'enfant a appris dans les conversations à la maison, dans le maintien, dans la discipline, dans tout cela, qu'il y a quelque chose de plus que les choses éphémères de la terre. Elle le communique aux autres. Tu l'inculteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Si tu ne le fais pas, maintenant tu deviens vieux et ton enfant ne s'inquiète pas de toi. Il ne t'honore pas. Il ne te reconnaît pas. Il dit, oh papa, c'est un embêtant. Oh maman, elle est embêtante. Ils n'arrivent même plus à travailler, à subvenir à leurs besoins. Bon, juste un peu qu'ils ne meurent pas de faim, c'est tout. Il n'y a pas d'honneur rendu. Pourquoi? Parce que pendant la vie, quand l'enfant était jeune, tu ne lui as pas enseigné ce qu'il devait faire et quels étaient ses devoirs. Donc ce commandement s'adresse d'abord à toi, papa et maman. L'intention de ce commandement n'est pas pour mettre un fardeau sur les enfants. Non, afin qu'ils soient obéissants et soumis de façon servile, comme des esclaves qui tremblent à cause du châtiment si on ne fait pas ce qui est dit. Ce n'est pas là la pensée de Dieu. Oh non, si vous voulez être un draconien dans votre maison et mettre vos enfants sous le joug, vous ne serez pas heureux et l'enfant ne sera pas heureux. Votre enfant n'est pas votre esclave. Ce commandement n'a jamais été donné pour servir de bâton par les parents pour exprimer la colère de Dieu sur les enfants afin de les obliger d'obéir. Mais écoutez, tous les ordres des parents ne sont pas forcément bons. Ils peuvent être contraires à la volonté de Dieu et à ce que Dieu pense qui devrait être fait. À mesure que l'enfant grandit, il porte son propre jugement sur ses parents et sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'enfant peut très bien faire la différence, même quand l'enfant est petit. Mais maman, tu as promis, maintenant tu ne veux pas faire. Tais-toi. Ouais. Tu as promis, c'est vrai, maman a promis. Si tu as promis, tu gardes ton engagement et tu fais ce que tu as dit. Autrement, tu ne le fais pas et tu ne le dis pas. Si tu es dans l'impossibilité de le faire, alors tu expliques à l'enfant, j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Voilà la circonstance. Je pensais que je pouvais. Explique-toi. Pardonne-moi, mon enfant. Écoute, une prochaine fois peut-être, on tâchera de mieux faire. L'enfant n'est pas une personne sans intelligence. Et à mesure qu'il grandit, son jugement se développe. Ne soyez pas trouvés en porte-à-faux avec votre enfant. Ces commandements ont joué un grand rôle pour consolider la communauté d'Israël, afin qu'elle soit forte et unie, avec des familles qui sont fortes et unies.
Une communauté ne peut pas être forte si la famille n'est pas forte. Une église ne peut être forte si les familles qui la composent ne sont pas fortes. Une église composée que de célibataires, c'est une église faible. Parce que nous n'avons que des demi-hommes et des demi-femmes. Nous avons des gens qui ont tout le temps qui ont besoin de conseils et n'ont pas de conseils à la maison. Mais une église forte, c'est une église où il y a des familles fortes et unies. J'aimerais savoir combien de familles nous avons ici. Je demande aux chefs de famille qui sont mariés, qui lèvent la main s'il vous plaît. Ceux qui sont mariés et qui sont chefs de famille. Et les mamans qui sont dans la famille et dont le mari n'est pas ici, levez la main en même temps. Nous avons énormément de célibataires ici. Donc nous avons une moitié faible, trop faible. Oh, que Dieu vous donne le compagnon et la compagne dont vous avez besoin. Et que chacun de vous, vous fassiez une cellule forte, afin que l'Église soit plus forte. Ne vous amusez pas à gauche et à droite, vous célibataires. Considérez votre corps comme étant saint, mis à part pour Dieu. Et vous attendez que le Seigneur vous donne ce conjoint. Vous priez pour lui et pour elle, ce conjoint dont vous avez besoin, afin de former une cellule forte. Une cellule forte qui sera une force pour l'Église. Seigneur, donne un compagnon et une compagne à tous ces célibataires et casse les prix des dots. Oh, combien ce marchandage des familles sur le prix à mettre sur la tête d'une fille qui se marie se me met en colère. Nous sommes dans des temps si difficiles. Et ces jeunes veulent se marier, mais on leur enlève le peu qu'ils ont. Immoral. Je suis content que ça passe à la télévision, à la radio. Ces commandements ont joué un grand rôle pour consolider la communauté d'Israël afin qu'elle soit forte par des familles qui sont fortes et unies. Il fallait que des directions et que des principes solides de base soient donnés pour le bien-être de chacun, le bien-être du peuple de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait du respect entre jeunes et moins jeunes, du respect entre âgés et jeunes, car ceci doit être réciproque. Ne méprise pas un jeune parce qu'il est jeune. Paul disait bien au sujet de Timothée qu'il ne soit pas méprisé à cause de sa jeunesse. Gloire à Dieu, lorsque Dieu remplit le cœur d'un jeune, il peut donner des enseignements aux vieux qui ont été désobéissants et magouilleurs. Je demande à Dieu que des jeunes hommes et des jeunes femmes se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la marche qui doit être pour ramener les vieux qui se sont égarés et qui ne sont plus des modèles. On avait l'habitude de dire que l'exemple devait venir des cheveux blancs. Mais aujourd'hui, combien de fois les cheveux blancs nous font honte et nous disons « ne les suivez pas ». Mais il est possible de retourner la chose. Ézéchias a décidé de suivre l'Éternel. Et il a amené de grandes réformes en Israël. Alors que son père, Asa, avait été un adorateur d'idoles. Il avait même fermé les portes du temple. Il avait éteint la lampe qui se tient sur l'autel devant l'Éternel. Et il cherchait le secours auprès des faux dieux. Le fils a dit non! Malgré tes cheveux blancs, je ne suivrai pas ta voix. Il s'est tourné à l'Éternel et Dieu l'a béni. Donc, jeune homme, jeune fille, tu ne peux t'excuser sur le péché de tes parents pour suivre la voie qu'ils ont suivie. Change le cours de la vie. Rame pagaie contre le courant. Sois un homme de caractère. Sais en qui tu as cru. Un homme seul avec Dieu est une majorité. Dieu voulait qu'il y ait du respect entre les jeunes et les moins jeunes pour l'équilibre et le bien-être de chacun. Le jeune d'aujourd'hui, souvenez-vous, sera vieux demain. Personne ne reste jeune tous les jours de sa vie. Alors ne méprisez pas les vieux. Et vous, vieux, ne méprisez pas les jeunes, car vous avez été jeunes un jour. Vos années, vous les avez vécues n'importe comment. Alors laisse ce jeune-là choisir pour Christ et vivre pour Christ. Et qu'il t'enseigne ce que tu aurais dû lui enseigner. Dieu est pour le respect, l'ordre et la bienséance. Il y a des obligations. Jésus a appliqué ce commandement. Jésus l'a enseigné. Il enseignait ce commandement d'abord par son exemple, dans sa propre famille, et aussi par la parole qu'il a prêchée. Jésus a eu un ministère de 3 ans, un peu plus de 3 ans, mais tout le reste de ses années, dont la Bible ne nous parle pas, est l'œuvre qu'il est venu accomplir ici-bas sur la terre. Nous savons qu'il n'est pas venu adulte dans le monde, mais il est né un petit bébé à Bethléem. Et ensuite, la Bible passe de sa naissance à son âge de 12 ans, où il nous est dit quelque peu de lui. Et ensuite, quand il était adulte, à l'âge de 30 ans, quand il a commencé son ministère, après son baptême, lorsqu'il a demandé d'être baptisé par Jean-Baptiste. Voilà. Et tout le reste du Nouveau Testament, des évangiles, est rempli de ce ministère qui a duré très court, d'un temps très court. Eh bien, Jésus a honoré ses parents. 30 ans de sa vie ont été passés avec ses parents et le reste avec son ministère. Le fait de ne pas mentionner Joseph est très probablement qu'il mourut tôt. Quand Jésus était encore tout jeune. Beaucoup de ces années ont été passées à prendre soin de sa mère et de ses petits frères et petites sœurs. Car la Bible nous en parle clairement. Il y en a qui disent que ce sont des cousins et des cousines. Non, pas du tout. La Bible nous parle clairement qu'il y a eu des petits frères et des petites sœurs. Il est probable qu'il ait pris soin du travail qu'avait laissé son père, son atelier de charpentier. Il faisait des charpentes pour les bâtiments qu'on construisait à l'époque. Des portes, des encadrements de portes, et que sais-je. Et peut-être des meubles, je ne sais. Il est probable qu'il ait pris soin du travail de charpentier, qui était la subsistance nécessaire pour que la famille puisse manger. À plusieurs occasions, Jésus rappelle à ses auditeurs ce commandement dans Marc chapitre 7, versets 9 à 13, où il dit « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'ai pu t'assister est corban. Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Pour éviter d'aider les parents, les enfants déclaraient leur bien corban ou déjà consacré à Dieu. Comme le bien est consacré à Dieu, donc le propriétaire, c'est Dieu, alors je n'ai rien à te donner. Je ne peux pas prendre de ce qui est à Dieu pour te le donner. Quand leurs parents déjà âgés demandaient de l'aide, ils répondaient, nous ne pouvons vous aider. Tous nos biens sont consacrés à Dieu. Jésus a vu cela comme une ruse afin d'éviter de donner le support nécessaire aux parents qui sont devenus, pour ainsi dire, indigents, qui ne peuvent plus pourvoir à leur nourriture et à leurs biens, et qu'on laisse croupir quelque part, tout juste avec un peu de nourriture pour garder l'âme et le corps ensemble. Ceci nous fait voir combien la religion, je dis bien la religion, peut être utilisée pour fuir les obligations morales. La personne qui donne son argent au temple pouvait échapper à ses obligations envers ses parents. Jésus ici condamne une telle action. Ah, je suis tellement spirituel que je donne toutes mes dîmes et mes offrandes et tout ce que j'ai à l'église. Donc, je n'ai rien à donner à mes parents. Ça n'y a pourvoir pour mes parents. Et c'est ainsi que nous sommes tentés d'utiliser nos activités religieuses comme excuse pour ne rien faire de nos responsabilités en face des besoins humains de toutes sortes qui sont autour de nous. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Il dit, la dîme de tout ton revenu, tu le dois à ton église. Tu le dois à la maison de Dieu. Quand on reste, c'est ton propre choix. Pour les offrandes, c'est ton propre choix. Dieu ne t'interdit pas de t'occuper de tes parents, de les aider. Dieu ne t'interdit pas d'aider un malheureux ici et là. Mais il y en a qui disent, je donne mes dîmes aux malheureux. Dieu dit non. Là où tu reçois la parole et là où tu es nourri par la parole, c'est là où tu donnes tes dîmes. Tout le reste que tu veux faire en plus, c'est à ta propre discrétion. Tu vois un malheureux qui a vraiment rien, un vrai malheureux, pas un fabriqué malheureux. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence, mes frères. Un vrai malheureux, tu le connais, tu as à cœur de l'aider, eh bien Dieu dit, aide-le. Et ne prenez pas pour excuse de ce que vous appartenez à une église et vous donnez déjà suffisamment. Combien tragique que de voir la prospérité de certaines institutions religieuses bâties sur la misère des pauvres et des oppressés. Comme là, le trésor du temple a augmenté encore, mais négligeant le besoin des vieux parents qui n'ont rien d'autre que leurs enfants pour vivre. Jésus a raison de dire, vous anéantissez la parole de Dieu. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Que dire des œuvres humanitaires desquelles on parle avec grand cri et grande trompette? Des ONG qui servent plus à s'enrichir qu'à secourir les autres. Croyez-moi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. On veut croire, on veut se faire passer pour un humanitaire. Et on donne aux pauvres et malheureux, disons que le 15%, le 20%. Et tous les restes, on prétend que c'est dans les frais administratifs. Vous n'avez pas déjà vu ça? Vous n'avez pas déjà vu ces ONG qui se battent pour avoir des fonds et dont une petite partie seulement des fonds est donnée aux malheureux et à ceux qui sont dans le besoin? Si on prétend vouloir nourrir des enfants affamés, est-ce que ces enfants affamés vont être nourris suffisamment avec un repas par semaine? Dites-moi un peu. Arrêtons de faire de l'hypocrisie et de dire nous nourrissons les enfants. Arrêtons de faire de l'hypocrisie en disant nous soignons les pauvres malades qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, tout simplement parce que une fois par semaine on leur donne une pilule ou que sais-je. J'en ai assez de cette hypocrisie, mes frères. Mieux vaut choisir un petit groupe d'enfants d'une certaine taille, plutôt minime, et soigner à leur bien-être avec tout l'argent qu'on peut ramasser ici et là, afin que ce groupe d'enfants grandisse et se trouve dans l'équilibre physique, mental et moral, que donner un chiffre de 10 000 enfants qui ont un repas seulement par semaine. Eh bien, je dis non. Car, après ce repas, ils seront aussi affamés. Ce repas va durer peut-être à peine 24 heures. Mais aujourd'hui, nous assistons dans notre monde à une grande hypocrisie, frères et sœurs. Je ne parle pas seulement ici du Congo, mais je te parle de ce qu'on voit ailleurs. Il y a plein de places dans le monde, il y a plein d'endroits en Afrique où il y a plein de malheureux. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. Mais certaines fois, quand je vois les chiffres des organisations religieuses et ce qui est fait en réalité, eh bien je me dis non, il y a du magouillage avec hypocrisie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pour cela qu'il faut le contrôle, et le contrôle partout. Le contrôle ici à la borne, à tous ces niveaux. Le contrôle dans toutes les organisations qu'on peut imaginer est fondé. Le contrôle par des tierces personnes qui n'ont rien à voir ni aucun bénéfice dans l'organisation, afin que le contrôle soit juste et neutre. Personne ne dit amen. Dans sa conversation avec le jeune homme riche, Jésus lui rappelle ce commandement de la loi de Moïse comme étant un commandement très important dans Marc 10, 19. Honore ton père et ta mère. Lorsqu'il rapporte les commandements à ce jeune homme riche qui est venu à Jésus, Jésus lui parle de tous les commandements et celui-ci est dedans. Honore ton père et ta mère. Jésus dit là que l'amour dû à son Dieu et au prochain ne remplace pas la loi, mais doit être un accomplissement de la loi. Ce commandement nous lie, car il nous somme d'honorer et de nous soutenir les uns les autres. Le plus fort en faveur du plus faible. Les grands en faveur des petits, les parents envers les enfants faibles, les enfants envers leurs parents quand ils sont devenus faibles à leur tour à cause de leur grand âge. Toute société comprend des forts et des faibles. Ne méprisons pas le faible parce que nous sommes forts. Celui qui vous parle sera peut-être un jour faible. De toute façon, s'il tient debout aujourd'hui, ce n'est que par grâce. Beaucoup de ceux qui ont atteint cet âge ne peuvent même pas se tenir droit. Mais gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que je serve. Et il me donnera la force encore et encore. Il vient bientôt. Qu'il me trouve en train de prêcher ces vérités. Frères et sœurs, il y a des principes. Je vais trop lentement, j'arrive pas à finir. Mais il y a des principes que j'aimerais vous dire. Les prophètes ont rappelé à chacun ses devoirs en disant que s'ils veulent une communauté forte et stable, ils doivent prendre soin de ses membres les plus faibles. C'est-à-dire, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, prendre soin des enfants, prendre soin des vieillards. Une communauté forte, elle n'est pas forte à cause de son armée, elle n'est pas forte à cause de ses canons, non. Elle est forte parce qu'elle prend soin des veuves, des orphelins, des enfants, des vieillards. Et même Dieu a pensé aux étrangers. Oh, merci Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Lévitique 19, 33, 34. Si un étranger vient séjourner parmi vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Oh, je suis content de ça. Ça, c'est un commandement de Dieu. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Si l'étranger qui vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène, au milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même. Ah, ça peut être un blanc, ça peut être un noir, ça peut être un ceci et un cela. Je m'abstiens de dire certains noms. Écoutez, pourquoi se haïr? Pourquoi se détruire? Pourquoi? Parce qu'il est de cela, je ne veux pas le voir. Parce qu'il est à Mukongo, je le rejette. Parce qu'il est à Mungala, je le rejette. C'est inadmissible. Homme né comme toi, femme née comme toi, je vous en supplie que Dieu nous secoure. Pourquoi ces déchirements de nations? Pourquoi ces déchirements ethniques? Pourquoi ces déchirements? Que ce soit au Kosovo, ou que ce soit au Congo, ou au Soudan, ou en Somalie. Pourquoi? Si vous regardez au fond, c'est des affaires d'intérêt. Le diamant, la richesse, le bien-être. Mais quel bien-être est-ce que nous avons de la sorte? Quel bien-être? Oh, que Dieu nous vienne en aide! Toute société qui est viable, viable, vous m'entendez, elle s'occupe des membres les plus faibles de sa communauté. Pourquoi des enfants de la rue? Il y en a plus de 12 000 à Kinshasa, paraît-il, 12 à 15 000. Pourquoi ne sont-ils pas pris en charge par quelqu'un, par quelque chose? Quand on a tant de diamants au Congo, on ne peut pas prendre soin de ceux qui sont délaissés pour compte. Qu'est-ce que nous faisons pour les plus faibles de notre société? Pourquoi ces bandits qui tuent pendant la nuit des jeunes gens qui rentrent simplement à la maison, comme ceci s'est passé il y a plus d'une semaine avec un jeune homme de 25 ans que nous connaissons tous? Pourquoi? Alors qu'il n'avait rien fait et qu'il rentrait chez lui. Pourquoi chaque semaine des gens sont pillés comme ce jeune homme là-bas du côté de Lemba ou Matete, je ne sais, je ne me souviens plus, qui allait chaque matin tôt avec sa somme d'argent pour acheter son pain et distribuer son pain. Eh bien, certains l'avaient remarqué. Ils l'ont agressé un jour pour lui prendre son argent. Il s'est battu. Il avait mis 3 ou 4 paires de pantalons pour protéger son argent bien loin quelque part. Pour finir voyant qu'il ne pouvait pas l'avoir, ils l'ont abattu une balle dans la caisse, on a pris l'argent, on est parti. Pourquoi? Oui, nous allons dénoncer ces choses-là. Oui, nous n'allons pas les cacher. Frères et sœurs, notre société est malade. Elle est malade d'après, dès le départ, là, à la famille. Voilà, ceux qui tuent ne sont pas heureux. Ceux qui tuent n'ont pas la valeur de la vie. Ceux qui tuent n'ont pas été éduqués dans une famille. Une famille où il y a papa et maman, où il apprend les principes de la vie. Tout ce qu'il a appris, c'est les principes de la mort. Pourquoi? Il nous faut revenir à Dieu. Peut-être vous ne m'aimez pas quand je parle ainsi, mais il n'y a que la vérité qui peut changer les choses. Et nous avons besoin de vérité. Et si vous voulez me tuer pour la vérité, eh bien, gloire à Dieu. Mais la vérité ne va jamais se taire. Et nous ne sommes pas des lâches. Nous aimons ce peuple. Et parce que nous l'aimons, nous disons la vérité. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a qu'une chose qui peut changer les choses à la situation. La repentance. La repentance. La repentance.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.